18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir les amis auditeurs, bonsoir à vous tous. Le week-end s'annonce et puis surtout, on est là pour vous accompagner. 18h, 19h30, au sommaire de cette émission, vous le savez plus que jamais, eh bien on est là pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Et vous l'avez fait très bien puisque hier, vous avez été extrêmement nombreux à réagir sur la relation Algérie-Maroc, les tensions, le match U17 à la Coupe arabe donc de football. Et puis vous avez été tellement nombreux que vous m'avez sollicité pour remettre sur le tapis le sujet aujourd'hui, donc à partir de 18h10. Oui, absolument. Donc j'ouvrirai l'antenne à 18h10 pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu, évidemment, qui étaient frustrés. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit oui, mais je voulais passer à l'antenne. Mais hier, admettons que, franchement, partout en France, vous m'avez inondé d'appels. Mais vraiment, je vous le dis. Et merci, en tout cas, de votre fidélité. Alors, tout à l'heure, on remettra sur le tapis le sujet à 18h10. Au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur les sujets d'actualité, la réforme des retraites, avec un passage en force, un grand point d'interrogation, évidemment, concernant les chefs de l'État. On en parle tout à l'heure. Le pouvoir d'achat avec le chèque énergie, la prime de rentrée, les fuels, bref, on distribue à tout va. Mais est-ce que cela suffit, évidemment, pour les 12 millions de Français qui sont les plus démunis? Et puis, l'axe quoi? Russie, Chine, Sino-Russie. Eh bien, on en parlera, parce que figurez-vous, finalement, à qui profite cette taxe Russie-Chine? On se pose la question, est-ce que ça profite à Xi Jinping ou est-ce que ça profite à Vladimir Poutine? Très honnêtement, la question se pose. On reviendra sur le Quoi de Neuf avec Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, qui viendra sur cette antenne comme chaque vendredi, son édito, pour revenir sur son regard d'actualité. Et puis vous les auditeurs au 01 53 48 3000, vous explosez le standard comme vous avez fait hier et les autres jours. Vous avez été très très nombreux justement partout en France à participer à ce débat. Et puis mon invité aujourd'hui, direction l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, vous savez... On peut parler de réactions hein, des uns et des autres, mais là, ils sont en pleine guerre. Alors, on va tenter de comprendre avec monsieur l'ambassadeur, justement, à Paris, qui va nous expliquer, ce sera notre invité aujourd'hui, parce qu'on parle de plus en plus d'un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Et puis, on va prendre le temps, évidemment, de vous expliquer géopolitiquement ce qui se trame. Voilà le programme, le face-à-face, 18h30, 19h30. C'est avec nos débatteurs influenceurs qui seront sur le plateau et confrontant leur point de vue. Les informés, c'est parti. Et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
L'interview du jour, c'est parti.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec monsieur l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes avec moi en direct. Donc, bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour Adil, merci pour votre intérêt. Merci.
Écoutez, bonjour. Tout à fait, c'est normal puisqu'on est en pleine actualité, justement. Et je veux qu'on prenne le temps avec vous, monsieur l'ambassadeur, de comprendre ce qui se passe dans le Haut-Karabakh. On parle de 49 Arméniens tués, on parle aussi d'un cessez-le-feu, on parle d'affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont fait... des centaines de morts, en tout cas des morts. Je veux comprendre le train de ma première question. Quelle est la raison de ce conflit?
D'abord, Adil, je voudrais vous informer que dans la nuit de 12 au 13 septembre, nous avons donc le retour des hostilités, des affrontements. La région de Karabakh, d'Azerbaïdjan est calme, tranquille aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans la zone frontalière entre les deux pays, Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc les forces armées arméniennes ont lancé une attaque massive à partir de leur territoire contre les positions militaires et des lignes de communication de notre armée dans les régions de Kelbajar, la Chine, de l'Azerbaïdjan. Donc c'était une provocation de grande ampleur, à la suite de laquelle nous déplorons aujourd'hui 77 martyrs, nos soldats officiers tués et deux civils blessés. Donc, comme la riposte de notre côté, la riposte militaire qui était légitime, ciblée et précise, il était possible de neutraliser les positions de tir de l'armée arménienne. Donc, c'est ça le résumé de ces événements.
Alors, justement, je voudrais... on va en revenir là-dessus, hein, Monsieur Rahman Saïb Mustafayev. Justement, vous, Monsieur l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, à Paris, en France, vous êtes le représentant. Dites-moi, ce conflit entre les deux pays avait fait, rappelons-le, plusieurs centaines de morts hein, dans le passé. Alors, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, vous en êtes où au niveau des affrontements? Même si vous venez de le rappeler, l'Arménie a déclaré que les troupes de Bakou cherchaient à avancer. La Russie, elle, revendique le rôle d'arbitre dans le Caucase. Vous répondez quoi? Parce qu'il y a le Haut-Karabakh aussi, évidemment, avec sa stratégie géopolitique.
Ah, c'est pas le conflit de Karabakh qui était résolu. Vous savez bien que donc à la fin de la guerre de 44 jours, ce conflit était résolu. Le problème aujourd'hui, c'est, si vous souvenez-vous donc bien la formule, la thèse célèbre de von Clausewitz, qui disait que la guerre c'est une continuation de la politique, mais par d'autres moyens. Aujourd'hui, on peut dire que cette provocation arménienne, donc dans la ligne, dans la zone frontalière, c'est une continuation de la politique arménienne par d'autres moyens. Parce que quelles sont les raisons principales de ces hostilités? L'Arménie toujours refuse d'appliquer les dispositions de déclaration tripartite de 10 novembre 2020. Vous savez, cette déclaration était signée donc, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la fin de la guerre de 44 jours. Jusque maintenant, donc, l'Arménie ne nous a pas encore fourni toutes les cartes de chambre de mine. Et donc, par conséquence, nous avons 240 citoyens azerbaïdjanais qui étaient tués et gravement blessés par les mines posées par l'Arménie. Donc, ensuite, l'Arménie, donc, toujours refuse de retirer toutes ses forces, tout son personnel militaire du territoire de l'Azerbaïdjan. Également, malgré tous les accords entre les deux parties, sous le guide de Moscou et Bruxelles, l'Arménie toujours résiste d'ouvrir les voies de transport et de communication entre les deux pays. Mais ce qui est plus important, c'est le sujet de traité de paix. Parce que l'Arménie, jusqu'à maintenant, refuse donc commencer les dialogues avec l'Azerbaïdjan sur le sujet de délimitation et démarcation des frontières, mais aussi de préparation le traité de paix.
C'est ça la base. Justement, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé du traité de paix. Alors, on se pose la question, quels sont les enjeux aujourd'hui?
Les enjeux aujourd'hui, donc, c'est ou bien nous commençons le travail sur les dispositions, sur les articles de ce traité de paix, ce que l'Arménie toujours refuse donc, à faire. Et vous savez que donc, récemment, c'était notre donc, quatrième réunion à Bruxelles sous le guide du président du Conseil européen Charles Michel, le 31 août. Deux parties, deux dirigeants de deux républiques, Azerbaïdjan et Arménie, M. Pachinian et notre président Ilham Aliyev, ils ont accordé sur la nécessité de commencer ce dialogue et le travail sur le traité de paix. Mais malheureusement, le 7 septembre, c'est-à-dire une semaine plus tard, le premier ministre arménien il a dit à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, à côté du président russe Vladimir Poutine, qu'aucun accord sur les questions les plus importantes n'a été parvenu à Bruxelles. En fait, c'était pour nous choc parce que c'était l'accord à Bruxelles qui était convenu. Mais ensuite, donc, c'est-à-dire le problème, l'Arménie ne respecte pas son parole, son signature sur le document.
Alors il y a le grand frère. Le grand frère, est-ce qu'on peut le qualifier de raisonnable, puisque je parle de la Russie, évidemment, qui essaye de séparer vous, les petits frères, qui en quelque sorte se disputent évidemment cet enjeu.
Mais écoutez, aujourd'hui, il y a deux formats de dialogue sur les questions de la phase après-conflit, après la guerre. C'est le format trilatéral, je dirais, c'est l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie, parce que la Russie, c'est un médiateur entre les deux pays, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est le premier format, donc principal. Et le deuxième format, c'est le format de Bruxelles, sous le guide du président du Conseil européen, Charles Michel. Exact. Donc nous sommes engagés avec l'Arménie pour parler dans le dialogue dans le cadre de ces deux formats.
D'ailleurs, donc, la présidente de la Commission européenne qui avait rencontré le 18 juillet dernier, évidemment, le président de l'Azerbaïdjan.
Donc, ce qui est important aujourd'hui, que l'Arménie respecte son signature et son parole. Parce que nous avons proposé déjà à l'Arménie le principe de base pour le traité de paix. Ce sont les principes de base qui sont le même principe qui existe aujourd'hui entre la France et l'Italie, donc en France, la France et l'Espagne. Ce sont les principes de droit international. Le respect donc réciproque de souveraineté, intégrité territoriale et indélébité de frontières reconnues internationalement. Ce sont des principes qui ne sont pas respectés par l'Arménie. L'Arménie, jusqu'à aujourd'hui, refuse de commencer avec l'Azerbaïdjan le travail sur le traité de paix.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine?
Je ne vois pas ici le lien, parce que ce qui s'est passé, c'est une continuation de cette politique destructrice de Erevan sur les sujets de la phase d'après-conflit. Donc, je ne vois pas le lien. Oui, il y a tension, il y a la guerre en Ukraine, mais ce qui se passe dans notre région, dans la zone frontalière, je le souligne parce que la région de Karabakh est calme aujourd'hui. Azerbaïdjan a lancé les travaux de reconstruction, donc la rénovation dans cette région. Il y a déjà les signes, les premiers petits signes de réconciliation entre les Arméniens de Karabakh et les Azerbaïdjanais de Karabakh. C'est une bonne chose, mais je pense que l'Arménie n'est pas contente de ce qui se passe dans cette région.
Monsieur l'ambassadeur, pourquoi, selon vous, ce conflit n'intéresse pas l'opinion publique, n'intéresse pas évidemment l'opinion publique internationale? Pour quelle raison? Alors que vous êtes voisin avec la Russie, on aurait pu imaginer qu'il y avait un lien avec l'Ukraine.
Mais écoutez, non, je pense qu'ici en France, il y a beaucoup d'intérêt. Donc tous les médias écrivent sur ce sujet, et beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires de toutes les parties politiques. Je pense qu'ici en France, notamment en France, il y a un grand intérêt pour ce conflit. Mais le conflit n'est pas entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il n'y a pas même le conflit de Haut-Karabakh, parce que c'est déjà résolu. Le conflit, à mon avis, c'est le conflit entre l'Arménie et le droit international. Parce que nous avons proposé aux Arméniens, nous avons proposé aux dirigeants arméniens de signer avec nous le traité de paix sur la base des principes de droit international. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'Arménie refuse de le faire?
Oui.
Pourquoi jusqu'à aujourd'hui l'Arménie refuse d'ouvrir les lois de communication, de transport entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie? C'est ça là-bas, ce sont des dispositions principales de déclaration qui a été signée par l'Arménie le 10 novembre 2020.
Oui.
Donc pourquoi l'Arménie ne respecte pas son signature dans cette déclaration?
On leur posera
la
question.
Sujet, et c'est ça le problème.
Je leur poserai la question, on les invitera aussi. Oui, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent? Alors effectivement, alors que le monde est à le regard figé, évidemment, par cette guerre en Ukraine, vous leur dites quoi, monsieur l'ambassadeur?
En ce qui concerne la guerre en Ukraine, nous comme pays, comme l'Azerbaïdjan, nous soutenons donc les principes de base. Donc à propos de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous souhaitons que cette guerre soit résolue, donc soit terminée le plus vite possible. C'est ça notre position. Donc l'Azerbaïdjan, nous sommes pour la paix dans notre région, mais aussi dans les régions de l'Ukraine, pour que le dialogue et la paix soient rétablis entre les deux pays voisins. Deux pays frères, la Russie et l'Arménie. Parce que l'Azerbaïdjan, nous tenons une bonne relation avec la Russie, c'est notre partenaire, mais aussi avec l'Ukraine, c'est notre partenaire important aussi. C'est dommage, mais encore une fois, il n'y a pas aucun lien entre la guerre en Ukraine et la situation dans la zone frontalière.
Merci.
Ici, dans notre région, c'est le sujet de conflit entre l'Arménie et le droit international. Nous avons proposé les principes de base. Il faut les appliquer, il faut les soutenir. C'est ça, la base de ce sujet.
Eh bien, on suivra attentivement, effectivement, ce conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Merci, monsieur Rahman Saïb Moustavaïev, l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Merci, monsieur l'ambassadeur.
Merci pour votre intérêt, merci beaucoup.
Merci à vous, à très bientôt. Je vais ouvrir l'antenne 0153483000. Vous l'avez écouté, effectivement, les sujets. Nous aussi, on veut être un peu, comment dirais-je, dans les informés, c'est aussi ça l'actualité. Parce que l'Azerbaïdjan, n'oublions pas, avec l'Arménie, ils sont voisins avec la Russie. 0153483000, chers amis auditeurs. Je veux, parce que vous me l'avez demandé hier et ce matin, remettre sur le tapis le sujet Algérie-Maroc. Entre le match de foot, les tensions, peut-on parler de tensions? Peut-on parler de, évidemment, de deux pays frères? Est-ce que vous, vous considérez que c'est que de la politique et que les peuples, eux, n'en tiennent pas compte? Bref, je veux venir, venez exprimer évidemment votre opinion au 0153 48 3000. Hier, il y avait des messages extrêmement poignants, touchants, dans la majorité qui disaient, mais attendez, nous-mêmes, on vit dans des familles qui sont à la fois... Mon épouse est algérienne, mon épouse est marocaine, bref, il y avait des croisements et que considérer que ça c'est de la politique et nous, on est frères, pays frères, donc pour, voilà, c'est au-dessus de nous, donc on laisse ça évidemment à la chose politique. Eh bien venez en parler, 01 53 48 3000, partout en France, je vous attends, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h24, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, Les Informés, c'est vous. Vous, d'abord, avant tout, votre rendez-vous d'actualité. Vous venez, vous commenter, vous analyser, vous décrypter, comme nous d'ailleurs, et les débatteurs, vous allez retrouver dans une poignée de secondes. À 18h30, c'est Michel Taube qui reviendra sur l'actualité avec son quad neuf. Tout d'abord, pour l'heure, jingle, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Quel artiste ce Giovanni? Giovanni, c'est notre réalisateur. C'est un artiste. Faut le voir, hein, si vous faites de la télé. Vous savez quoi? Il met en scène la réalisation. Il est incroyable. C'est ça, un premier micro. C'est ça?
Ah ben, on fait ce qu'il faut pour. C'est un grand spectacle, les informés.
Tu fais le show, hein.
Mais le présentateur.
Qu'est-ce qu'il y a, le présentateur?
Aussi fait le show.
Ouais,
c'est normal.
Moi, je fais pas le show, j'informe. C'est pas pareil. Bachir de Lyon, bonjour Bachir.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue mon cher Bachir.
C'est gentil, merci.
Alors, on vous écoute. Alors, avant de croiser les regards.
Le débat, c'est Maroc-Algérie alors.
C'est ça. Parce que vous m'avez demandé hier, vous avez été tellement nombreux à m'inonder au standard. Vous m'avez demandé hier, non mais attendez, Adil, remets le sujet sur la table. On veut en parler.
C'est un très beau sujet, Adil. Franchement, c'est un très très beau sujet et j'avais envie de commenter sur ça.
Allez-y.
Alors moi, je suis algérien.
Oui.
De père kabyle et de mère sétifienne. Mmh. Et un salam à tous ceux qui me reconnaissent. J'ai grandi avec une communauté marocaine.
Oui.
On n'a jamais eu de problème... sur ce sujet. On a grandi, on s'est aimé, on a passé des bons moments.
Mais, c'est
et
ça.
Le Maroc, comment?
Là, j'attends la suite.
Je suis allé plusieurs fois au Maroc, on m'a toujours bien accueilli là-bas. Une fois, j'y suis allé avec mon passeport vert, parce que mon passeport français était périmé.
Oui.
Les douaniers, ils ont été... merveilleux. Ils m'ont très bien accueilli, mrahbad, zairi, mais vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir.
Bien, bien, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir.
Et franchement, comme certains auditeurs l'ont fait remarquer, la politique et nous, c'est deux choses différentes.
C'est vrai, vous avez raison. Je pense que le peuple, il ne doit pas s'en mêler. Ça, c'est... Enfin, il doit s'en mêler,
moi,
si. Il doit s'en saisir.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent trop dans la politique gratuitement, pour rien du tout. Alors que moi, tous les Marocains que je connais, ils sont très bien, on a une super entente et on est des frères. Personnellement, il n'y a pas de frontières.
Bachir de Lyon, restez avec moi, parce que vous savez quoi? Je vais aller à Gonesse. Pour écouter Mohamed. Et Bachir, vous êtes en direct? Non, je vais garder Bachir en direct. Bachir, vous restez en direct parce que vous allez pouvoir répondre à Mohamed. Bonsoir Mohamed, bonjour. Baissez le poste de radio Mohamed, s'il vous plaît. Baissez le poste parce qu'il y a un écho sur l'antenne. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. On vous écoute mon cher Mohamed.
Bon, merci mon frère. En fait, moi, je trouve aucune différence au niveau culturel, entre, moi je suis algérien, entre les Algériens et les Marocains. Moi je pense que on se ressemble tellement que la polémique, normalement, elle ne doit pas être ça n'existe même pas dans, normalement.
Ouais.
Moi, je m'agace beaucoup plus. Les influenceurs et les youtubeurs,
oui.
Quand ils entendent, en fait, à faire des lives, à faire des émissions, quand les Marocains critiquent que Bouchegh Rehan, et quand les Algériens, ils critiquent le roi. Moi, j'ai une question à leur dire, à leur parti.
Allez-y.
Est-ce que les Algériens qui critiquent les Marocains, est-ce que dans notre pays, l'Algérie, il n'y a plus rien à régler, on n'a pas de problème chez vous, et pareil pour les Marocains. Est-ce que chez vous, il n'y a pas de problème pour vous laisser le Maroc, votre pays, et vous parler des problèmes des Algériens et des critiques, voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Celui qui veut faire la politique, celui qui veut être un activiste, pour améliorer son pays,
oui.
Normalement, à mon avis, il doit commencer par son pays. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange le plus, s'il
vous plaît. Bon, Bachir, vous voulez réagir, Bachir de Lyon ?
Moi, personnellement, que ce soit le roi ou que ce soit le président algérien, les critiques, ils sont minoritaires, ceux qui les font. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ni algériens ni marocains qui allument la mèche, qui font où je suis algérien, alors que c'est ni un algérien ni un marocain, et qui jettent la flamme dans l'essence, quoi. Qui voilà. Faut pas entrer dans ces trucs-là. Le roi, s'il fait ce qu'il veut, ils ont une royauté. Bon, après, ils aiment le roi, et puis nous, on a un président. Et puis ça, c'est la politique. Et moi, ça m'intéresse pas du tout, la politique. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai même des amis marocains qui sont morts, avec qui j'ai grandi. C'était vraiment des frères. Et j'ai aussi beaucoup d'amis marocains. Ils ont des Marocains, comme certains Algériens, ils ont une éducation. Et c'est des gens gentils. Je vais pas dire que tous les Marocains sont gentils, mais ils ont une majorité de ces gens-là, ils ont une bonne éducation, ils sont gentils. Que ce sont les Marocaines aussi, hein.
Ouais.
Et les Algériens aussi. Mais nous, on est un peu, dès qu'on nous dit quelque chose, on s'énerve un peu trop vite, on est un peu trop sur la défensive. Alors que je pense que faut la détente, faut savoir écouter les gens et faut savoir répondre à leur juste valeur, simplement. Voilà ce que j'ai à dire.
Merci à vous deux, Bachir de Lyon et de Mohamed de Gonesse. Yazid, restez avec moi, Yazid. Je vais vous accueillir dans une poignée de minutes. Mais comme pour l'heure, c'est le Quad Neuf avec Michel Taube et son édito, eh bien, allons-y.
Les informés. Le Quad Neuf.
Le Quad Neuf avec Michel Taube. Oh, la voix de Michel Taube qui envahit les ondes. Bonjour.
Bonjour, cher Adil.
Comment
Bonjour
ça va?
Bonjour, auditeurs de Beurre FM. Écoutez, ça va bien.
Vous avez écouté le sujet, c'est les tensions. Est-ce qu'on peut parler de tensions entre l'Algérie et le Maroc? On parle de ça et les auditeurs sont très nombreux à réagir et de façon extrêmement constructive, je dois le dire. Vous voyez, Michel Taube. J'ai eu, par D'accord. exemple, là, Lyon, Bachir, Gonesse, Mohamed, qui intelligemment, ouais. évidemment, livrent leurs sentiments, leur point de vue sur les deux peuples qui qualifient eux-mêmes de peuples frères. Ensuite, j'irai à Montpellier, voyez-vous, pour accueillir Yazid. Voilà, Michel Taube.
Ah bah écoutez, alors si vous voulez qu'on parle des relations entre le Maroc et l'Algérie, je vais vous dire. Moi, je pense qu'il y a un pays qui s'appelle le Maghreb, dans lequel vous avez trois pays, et même on pourrait aller un peu au-delà avec la Mauritanie et une partie de la Libye, qui sont évidemment
exact.
La Tunisie, le Maroc et l'Algérie.
Et
en tant que Français, moi je ne suis pas ressortissant d'un de ces pays, ni originaire d'un de ces pays, même si mon épouse, comme vous le savez, était tunisienne et malheureusement elle n'est plus là, donc j'ai des fortes attaches avec évidemment le Maghreb. Je pense que la France aurait pu depuis très longtemps promouvoir une politique Maghreb en fait et un rapprochement entre ces trois pays. Et malheureusement, vous avez dans ces pays des régimes politiques. Et là, je ne vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, même si lorsqu'on lit Opinion Internationale, mon journal, on comprend que j'ai certaines préférences, mais la réalité, c'est que les peuples marocains, le peuple algérien, le peuple tunisien sont très proches, effectivement. Et que malheureusement, il y a des logiques politiques, il y a des logiques de pouvoir qui les ont éloignés, qui les ont séparés. Mais je pense que lorsqu'Emmanuel Macron a été en Algérie il y a 15 jours, il y est resté 3 jours, ce qui est très long pour une visite d'État. Moi, j'aurais préféré qu'il se déplace, pourquoi pas une tournée dans les trois pays, Tunisie, Maroc, Algérie.
Mais c'est prévu, Michel Taube. C'est prévu, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, aussi, se rend au Maroc fin octobre, début novembre, j'ai entendu dire.
Imaginez l'impact que cela aurait eu s'il avait, sur une semaine, s'il s'était déplacé sur une semaine dans les trois pays.
C'est vrai.
En réservant à chacun des pays le même temps de disponibilité, le même temps d'écoute. Ça aurait eu un impact très très fort, ça aurait été un signe extrêmement fort et ça aurait été utile à la pacification des relations entre l'Algérie et le Maroc, par exemple. Également, il y a une tension entre la Tunisie et le Maroc actuellement, qui est d'autant plus diplomatique. Mais voilà, donc moi je pense effectivement que vu de Paris, vu de Beurre FM, vu d'Opinion Internationale, on doit concourir au rapprochement des peuples, au dépassement des mésententes entre les pays. Voilà, après, on a tous nos préférences. Moi, j'ai une préférence, voilà, mais dans l'esprit du discours que vous m'avez proposé de faire, je vous en remercie, je m'en contenterai de dire cela. Voilà.
Eh bien, écoutez, bravo. Bravo pour cet édito. Je le rappelle, le fondateur, directeur du journal en ligne Opinion Internationale, mais vous êtes aussi éditorialiste sur les différents médias. Merci Michel Taube et je vous souhaite un excellent week-end.
Merci à vous aussi, excellent week-end.
À la semaine prochaine, sans faute, vendredi. On marque une pause, pub, et on se retrouve dans une poignée de minutes avec Yazid de Montpellier et puis Amine du 94. À tout de suite.
Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Avant de retrouver nos auditeurs, 18h41 et le commencement, enfin, vous entamez votre week-end tout doucement. Je parlais en off avec Maître David Libeski qui me disait, oui, effectivement, quand on est en week-end, on considère ça y est là, ça peut commencer. Je dis, oui, quoique, attention. Tiens, j'en profite, le face-à-face avant de retrouver nos auditeurs.
Les informés. Le face-à-face.
Maître David Libeski, comment ça va? Avant de retrouver quelqu'un.
Ça va, comme tu dis tout à l'heure, on est vendredi, donc tout va bien le vendredi. Je crois qu'il n'y a pas que moi pour tout le monde. Tout le monde est content, en fait, le vendredi soir.
Notre représentant syndicaliste, Jimmy Dalidou, bonjour, et auteur également. Bonjour, comment ça va? Lui, il parlait de sa course. Vous voyez, il fait de la course tous les jours. Il me dit, je me libère, je fais deux heures, j'arrache le truc, je le défie.
J'ai travaillé pour le 29 septembre et après, je cours.
Parce que figurez-vous qu'il prépare le semi-marathon.
Tout à fait.
On vous soutiendra, vous inquiétez pas.
Merci.
Beurre FM soutiendra vous. Notre ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien.
Oui.
Comment ça va?
Bonsoir Adil et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Oui. Tout va bien?
Ça passe. Ça va.
Jean-Pierre Colombiès.
Oui.
Attention, hein. Le commandant de la police.
Oui, mais il est plus en exercice.
Si on parle dans les médias, la sécurité maximum pour les funérailles, tu sais, vous savez, lundi.
Oui, tout à fait.
Tous les chefs d'État, lundi, ça va être impressionnant.
Ça va être un enfer.
Comment on fait, vous, ancien commandant de la police? Comment on gère ça?
Non, moi, j'étais pas spécialisé dans les services.
Tiens, quand on parle de commandant de police, sirène, tout de suite.
Non, j'étais pas du tout spécialiste de services d'ordre de ce type-là, mais pour la sécurité, c'est un cauchemar absolu.
C'est un cauchemar. C'est tireur d'élite partout, là.
Tireurs d'élite partout, c'est pas tellement les tireurs d'élite qui posent problème, c'est l'acheminement des autorités, c'est la sécurisation des trajets, enfin c'est un truc abominable quoi.
Un bourbier.
On va dire ça gentiment.
Il y a aussi les tireurs de litres à la police.
Comment?
Il y a aussi les tireurs de litres à la police.
Oui, c'est pas des clochettes. Jimmy Dalidou. Jean-Pierre, occupez-vous de lui s'il vous plaît. Allez, direction messieurs avant de retrouver justement. Justement, c'est pas mal. Avant de retrouver justement, messieurs, vos points de vue sur les commentaires, je vais juste accueillir Yazid de Montpellier et Amine du 94. Yazid, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, frère.
Alors, je vais accueillir aussi Yazid, bougez pas, Amine du 94 qui nous appelle d'où précisément?
De Vitry-sur-Seine, bonsoir à tous.
Bonsoir. Et Mabrouk qui nous appelle de Caville. Mabrouk.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, Mabrouk?
De Méru, dans l'Oise.
Allez messieurs, je vous écoute, je commence par Yazid. Donnez-nous votre point de vue.
Écoute, moi mon point de vue c'est un problème journalistique, voilà. Moi c'est les journalistes qui mentent à chaque fois, il y a un événement sportif ou un événement, peu importe. Les journalistes, ils montent ça en crescendo, etc. Et certains gens de la population qui suivent derrière. Moi, je suis dans une région, l'Occitanie, où il y a une mixité
flagrant. Marocain, algérien, mais on n'a pas de problème. Il n'y a pas de tension entre nous ici. Entre Perpignan, Montpellier, Nîmes, Sète, Béziers, il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que si on écoute les gens, c'est-à-dire qu'on est, je sais pas, sur le qui-vif et tout ça, quoi. On voit sur les marchés, on voit dans les grandes surfaces, on les voit dans les restos, comme ici à Montpellier, je fais pas de la pub à un mec, mais il a ce qu'on appelle la table marocaine, y a énormément d'Algériens qui vont manger là-bas.
Exactement. Et je connais l'Occitanie, et je connais la chaleur, l'hospitalité, évidemment, de cette belle région, que je vante. Non, mais c'est vrai, l'Occitanie.
Tu le sens, on est ici, nous, moi je la sens pas, il y a aucune tension. Ouais. Algérie-Maroc, il n'y a pas aucune tension. Il y a une mixité.
J'ai fait mes études à Montpellier, vous savez. J'ai fait mes études à Montpellier. J'ai beaucoup. Yazid, vous connaissez la rue Jean Jaurès ?
Oui, bah oui.
J'ai fréquenté quand j'étais étudiant. Qu'est-ce que j'ai fréquenté cette rue ?
Bah oui.
C'est la rue des
moi
étudiants.
Moi, je suis à Montpellier, mais on n'a pas de soucis. Je suis à la Beaulieu de Montpellier. À la place de la Comédie, plein de cabanes.
Vous savez que j'ai connu Georges Fraîche, votre ancien maire ?
Oui, il a fait des belles choses, Georges Fraîche à Montpellier. Il a fait des belles choses. Il a fait le Port Marianne, là, c'est des quartiers, machallah, si tu veux, quoi. Voilà. Ça fait un peu chic, mais bon, c'est. Moi, franchement, c'est ça. Je voulais juste dire, c'est un problème, c'est-à-dire, les journalistes, ils jaugent, voilà. On va parler de ça, il y a moche de croûte, on va jouer sur ça, on va un truc comme ça, le policier, un mec, il va sortir un avion marocain, il transporte du shit. Mais je m'en bats les rats, moi, de ça, quoi.
Bon, Yazid, vous avez livré votre point de vue, c'est une très bonne chose. Merci à vous, Yazid. Restez avec nous. Amine, de Vitry.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous avez comme point de vue ?
Moi, ce que j'ai à dire, c'est que mon père est marocain, ma mère est algérienne, et ça se passe super bien déjà.
Comme beaucoup.
Voilà, donc après, ouais, c'est tout ça, c'est vraiment politique. Ouais. Après, entre populations, moi, ça m'arrive d'aller au Maroc ou en Algérie. Donc, ça m'arrive de partir au Maroc avec des amis algériens, ils sont super bien accueillis. Ça m'arrive de partir en Algérie avec des amis marocains, ça se passe super bien aussi. Ils
sont accueillis. Vous ne sortez pas, évidemment, tout ça.
Voilà, donc en fait, c'est vraiment politique. Quand il s'agit de la population, tout le monde est content que des personnes d'une autre communauté, que ce soit marocain, algérien, français, etc., de toutes les communautés. Donc les gens sont contents, sont ravis de les accueillir. Donc il n'y a aucune tension.
Merci donc, voilà. Amine. Merci Amine, c'est important. Cette belle mixité, justement le fruit des deux. Il disait Amine, voilà, l'un et l'autre, c'est une même chose. Mabrouk enfin, Mabrouk.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, on vous écoute, mon cher Mabrouk.
Moi, je dirais que il faut pas nier le problème existe bel et bien, même si on veut l'évacuer. Il est clair qu'ici en France, c'est vrai qu'on le vit pas de la même manière, mais on ne peut pas dire qu'il est complètement dissous. Le problème existe bien. C'est vrai que ici, il y a une mixité. Les gens se respectent très bien. Quelquefois même, on ne sait pas si les gens ils sont de quelle origine. Est-ce qu'ils sont marocains ou algériens? En même temps, on le cherche même pas parce que ça nous intéresse pas. Par contre, le problème, si par exemple maintenant on parle des pays, il est clair que ce sont des pays de pays frères, c'est vrai, et que les tensions sont alimentées de part et d'autre. Et il n'y a pas que le point de vue journalistique, comme le frère venait de le signaler à l'instant. Faut pas oublier qu'il y a vraiment des vraies tensions. Elles sont pas justifiées, bien entendu. Heureusement que le peuple ne suit pas ces tensions. Il vit sa vie, mais quand même, ça plombe un peu l'ambiance. Faut le reconnaître aussi. Donc quand vous voyez deux pays frères, deux pays frontaliers. Qui pourrait profiter justement pour lancer ce grand Maghreb arabe qu'on rêvait tant depuis des décennies qu'on voit pas le jour. Donc on peut pas dire que le problème n'existe pas. Le problème existe. Maintenant ici en France, c'est vrai qu'en Europe on le voit pas parce que les gens ils sont plus intelligents et donc ils essayent de coexister malgré les soucis que les deux pays ont entre eux, mais ce sont des problèmes en réalité qui ne devraient pas y être, parce que si je prends le cas de l'Algérie, qui, par exemple, va sortir toujours cette histoire de Sahara occidental pour plomber l'ambiance. Et on sait très bien que l'Algérie, en réalité, moi je suis algérien, en réalité l'Algérie s'en fout, excusez-moi du terme, s'en fout totalement de la vie des gens du Sahara occidental. Tout simplement, elle a trouvé cette excuse pour maintenir le statu quo et de manière à ce que l'Algérie dira à son peuple, ben voilà, il y a toujours, on va dire, on est en danger, l'ennemi est à nos portes, de cette manière-là, elle peut maintenir le peuple sous son commandement. Exactement. Et ça restera toujours de cette façon-là, que l'ennemi en Algérie, tout le monde sait, il est déjà à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Voilà.
Vous avez tout dit. Vous avez tout résumé. Bravo. Bravo, Mabrouk. Effectivement, c'est ça. Merci, Mabrouk, d'être intervenu.
Je vous en prie.
Et vive la fraternité. C'est ça qu'il faut dire, surtout. Vive la fraternité, globalement, effectivement. Merci. Allez, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Universel, il disait Jean-Pierre Colombier. Ça l'est tout de suite, messieurs, je vous soumets ce premier sujet. Réforme des retraites. Comment Emmanuel Macron compte passer? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'accélérer, de vouloir absolument accélérer les choses? Parce que, évidemment, Emmanuel Macron veut s'inscrire dans un timing. Ou est-ce qu'il veut faire un passage en force? Maître David Lebenskind.
Ah bah les deux, en fait. Il aimerait bien, en fait, mettre en place cette réforme maintenant et pas attendre le prochain trimestre. Mais la donne est différente de son précédent quinquennat, où, rappelez-vous, il avait abandonné la réforme des retraites, mais bon, à l'époque, il avait une majorité. Là, il n'a plus de majorité, donc ça va être difficile. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Puisqu'il aimerait bien, apparemment, faire passer cette réforme dans le projet de loi de sécurité sociale le 26 septembre prochain. Mais là, sans majorité, je ne vois pas comment il va faire.
Il a une majorité relative.
43. Puis il faut que ceux qui nous écoutent, et ça c'est important de le dire, le système des retraites est excédentaire aujourd'hui. Oui. Il a été excédentaire en 2021. Il le sera en 2022. Alors effectivement, à partir de 2030, peut-être le système va craquer, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est l'urgence. On a connu la crise Covid, la guerre en Ukraine, là aujourd'hui l'inflation. Je pense que les Français, ils sont fatigués, ils sont exténués. Et s'il fait cette réforme maintenant, de toute façon, c'est certain qu'il va avoir une explosion sociale, puisqu'il y a des manifestations qui sont prévues le 29 septembre et début octobre. Mais je ne pense pas que le moment soit opportun.
C'est clair.
Jean-Pierre Colombiès, non, je vais marquer la pause pub et je vous redonne la parole à vous deux. Mais c'est la pause pub, hein. La radio doit aussi, vivre. Je n'osais pas vous le dire. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, c'est avec Maître David Lévesque, Les Informés avec Jimmy Dalidou, Les Informés enfin avec Jean-Pierre Colombiès.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Enfin, c'était pas tout à fait ce jingle, mais c'est pas grave, hein, c'était celui des Informés.
Les informés. Le face-à-face.
On est arrivé.
Allez, Jean-Pierre Colombiès. Bon, la réforme des retraites.
Ouais, je vais essayer d'être synthétique, mais moi j'ai vraiment le sentiment, enfin, et court surtout, le sentiment qu'Emmanuel Macron se complète en baignant dans le conflit. Je veux dire, cette réforme des retraites, elle est très conflictuelle, elle est très crispante, mais alors surtout dans un climat anxiogène comme on connaît, et que lui-même a nourri avec la pandémie pendant 2 ans, avec la guerre maintenant en Ukraine dans laquelle il nous implique, comme si nous étions nous-mêmes sur le front russo-ukrainien. Il en rajoute systématiquement avec des problématiques qui nous tombent dessus, je parle du peuple français tous les lundis, on sent bien qu'il y a ce plaisir, cette envie de maintenir la population, et ça rejoint complètement ce que disait l'auditeur tout à l'heure sur la politique intérieure algérienne, où pour tenir une opinion publique, on crée l'angoisse, on crée un système anxiogène. Pour la retraite précisément, il sait très bien que la plupart des organisations syndicales, je mets le MEDEF à part, elles sont contre, irrémédiablement contre. Je ne suis pas économiste, mais tout le justifie par des rapports d'experts suffisamment alimentés et nourris pour dire stop, il n'y a aucune urgence à faire immédiatement, sauf si on veut mettre le feu. Et j'ai vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron se plaît dans ce climat de tension sociale permanente. Et ça, c'est regrettable.
Donc, vous en appelez à la concertation?
Pas que moi.
Oui, enfin, Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait faire, là, il y a quelques heures, une concertation. Mais c'est quoi sa concertation? C'est avec sa refondation, avec les syndicats. Bon, c'est une concertation qui va durer une demi-journée, puis voilà.
Enfin, il annonce aussi dans le même temps qu'il la fera quand même. Donc,
oui, mais il la fera, mais en fait, c'est quasiment obligatoire de faire une concertation. Sauf que.
Non, je parle de la réforme. Il la fera, il fera
sa
réforme.
Oui, il la fera, quoi qu'il arrive. La concertation, en fait, c'est un pis-aller pour montrer qu'il y a eu un pseudo-dialogue social.
Oui, mais comme il l'a fait pendant les Gilets jaunes, avec un pseudo-dialogue.
Non, avec les Gilets jaunes, il n'a rien fait.
Si, je parle du débat national.
Non, mais il l'a fait tout seul, en fait. C'était un spectacle.
Je suis d'accord.
C'était un spectacle.
Je suis d'accord, mais comme il a fait avec le Ségur de la Santé, comme il a fait avec le Bon.
Oui, oui, mais bon, il vient d'être élu, donc il a intérêt à faire cette réforme rapide, réforme qui, je vous rappelais tout à l'heure,
moi, en je fait, pense
qu'il,
que ça
a, qu'il a pas pu faire, en fait, lors de son précédent quinquennat. Donc, il est pressé. Coincera. Donc, mais bon, est-ce que ça va passer? Ça va être quand même difficile, quoi.
Jimmy Dalido.
Alors, concernant les concertations, etc., évidemment, il va y en avoir. Des OS, elles sont là aussi là pour ça, pour affirmer un dialogue social, mais indépendamment des concertations, de toute façon, ça ne passera pas. Parce que, dans le fond, ça va être retraite à point. Et considérablement, c'est une cristallisation d'inégalités sociales. Si vous revenez, alors, il faut bien comprendre une chose, que nos auditeurs comprennent. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? D'une manière générale, je ne vais pas développer, ce serait trop long. Mais d'une manière générale, la retraite à point, on passerait d'un régime qui était actuellement, le régime du régime général, est un régime à prestations déterminé. Mmh. Là, on passerait à un régime à cotisation déterminée. Concrètement, on va ça avec la retraite à points. Vous connaîtrez ce que vous allez cotiser, mais vous n'allez pas connaître ce que vous allez toucher, contrairement à la retraite actuelle. D'une manière générale, vous allez cumuler des points qui seront cumulés sur un compte professionnel. Et en fin de carrière, lorsque vous avez réunit toutes vos annuités.
Qui dit ça? C'est les syndicalistes qui disent ça?
Ça, c'est le projet de retraite à points.
Oui, oui.
Que le gouvernement nous présente. Est-ce que les auditeurs comprennent bien? À la fin de leur carrière, la totalité de leurs points qui ont été cumulés seront liquidés. Ces points ouvriront des droits.
Enfin, le point, il aura une valeur monétaire.
Que le point est déterminé par une valeur.
Oui, il aura une valeur, oui, monétaire.
Ce qu'on appelle la valeur des services. Mais ce que le gouvernement ne vous dit pas, et qu'il n'a pas dit aux Français, c'est que la valeur du point est déterminée par plusieurs éléments, notamment le PIB, notamment l'état économique et social de la nation, et notamment par d'autres éléments, le chômage, etc., etc. Vous savez très bien que rien ne va dans ce pays, qui est dans ce système dans lequel nous vivons. Nous vivons clairement dans un mode de production qui est obsolète et qui est irrationnel et qui est incapable de satisfaire les besoins de la population. Ce qui fait que mécaniquement, si on revient sur les différents rouages de fonctionnement de la retraite à point, les pensions vont mécaniquement baisser.
Oui,
je rappellerai que la retraite actuelle en prend en compte les 25 meilleures années. La retraite à point, ils prendront toute la carrière, et c'est-à-dire que les moins bonnes années seront intégrées dans le calcul des pensions, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Oui, donc de fait, ça baisserait bien évidemment. Oui.
Automatiquement, vos pensions vont baisser. Donc ça veut dire que, pour rejoindre ce que tu disais, David, non seulement la classe ouvrière et les couches populaires, la majorité des Français, galèrent toujours plus. Une fois qu'ils ont payé leur loyer, l'électricité, le gaz, le carburant, le SMIC, il est absorbé, ils sont à découvert, ils payent des agios, ils galèrent, ils crèvent la dalle. Et on leur dit qu'ils vont travailler toute leur vie, parce que dans le même temps, vous avez des multinationales qui attendent.
C'est 65 ans. C'est 65 ans.
Et c'est pour ça que Macron
pas des fake news.
Coûte que coûte. Il va la passer coûte que coûte, parce que derrière, les multinationales attendent. Les spéculateurs qui vont spéculer sur les retraites privées attendent à la porte. Lorsque Macron intervient, Monsieur Roux de Bézieux, patron du BNF, intervient dans le même temps, parce qu'il faut affirmer ce que Macron dit. Parce que derrière, vous avez les CAC 40 qui attendent.
Donc dossier épineux, donc ce qui veut dire en gros, il aura du mal à faire passer cette réforme.
Bien sûr, mais il aura du mal. Et nous,
mais c'est un dossier épineux depuis 20 ans. Depuis 20 ans, tous les gouvernements se sortaient ça à cette réforme. On se rappelle d'Alain Juppé en 95. On se rappelle de Fillon. Enfin, c'est un thème récurrent, c'est un thème compliqué, c'est difficile de réformer en fait le système des retraites.
Ce qui m'inquiète, c'est que tu viens de citer des hommes politiques qui avaient une conscience politique, c'est-à-dire qu'ils savaient jusqu'où ne pas aller. Moi, ce qui me fait peur avec lui, c'est qu'il n'a pas de retenue. Et que j'ai même l'impression que plus ça clash, plus ça tape.
Après, c'est un financier, il vient du privé. Hein,
mais justement, enfin, je suis désolé, les gilets jaunes, tu les connais mieux que moi.
Bah, en fait, on est dirigé par un gars qui n'a jamais travaillé.
Oui, voilà. Non, mais...
Le mec, il n'a jamais travaillé.
Vous exagérez un peu.
Il n'a jamais travaillé.
Il a bossé. Il a bossé dans le privé. Dites pas de. Ne lancez pas des comme ça.
Pas des fake news. Soyez raisonnable.
Pas de fausses informations. Il a bossé.
C'est la réalité.
Je veux juste dire que pendant 9 mois,
il avait un contrat, il avait un salaire, il a bossé.
Pendant,
il a bossé pour les oligarques.
Mais il a bossé. C'est l'oligarque, là, c'est pas la question.
Il a ça,
c'est
vous qui dites. Il a pas privé.
Deux secondes. Moi, je fais la différence.
Jean-Pierre Colombiès.
Je veux juste dire, j'étais bien placé pour le savoir parce que j'étais informé en direct de ce qui se passait sur le terrain. Je veux dire, ce qui s'est passé pendant les 8 à 9 mois de la crise des Gilets jaunes est inédit en France. On ne peut pas comparer ça à mai 68. Ça n'a strictement rien à voir. Et ça, ça pouvait être circonscrit. La crise des Gilets jaunes est une crise artificielle alimentée par Emmanuel Macron. Qu'on le veuille ou pas, pour moi, ça ne souffre aucune discussion parce que j'en avais des informations en direct sur le terrain et j'ai assisté à des manifestations de Gilets jaunes. Et je peux assurer, affirmer sur cette antenne aujourd'hui que si véritablement on avait voulu, notamment, exfiltrer les éléments, je dirais, perturbateurs, mais qui étaient perturbateurs dans le sens où ça arrangeait notamment le gouvernement, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire, on aurait dû le faire, on ne l'a pas fait.
Vous êtes en train de nous dire sur l'antenne qu'on a laissé faire.
Bien sûr, et on a laissé faire pour pourrir la situation et totalement décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes, qui est une véritable expression populaire comparable à des prémices révolutionnaires comme on en a connu dans l'histoire. Tout simplement, lorsque vous avez une émulation et une ébullition populaire comme celle qu'on a connue pendant les Gilets jaunes, ce sont les prémices de mouvements révolutionnaires, faut le dire. Et ça, ils l'avaient bien compris, ils l'ont très bien compris. Donc il fallait totalement décrédibiliser ce mouvement en laissant faire des black blocs, en trouvant tous les débiles mentaux qui se trouvaient dans les manifestations, en les mettant d'ailleurs en première scène. Hein, avec...
Après, je n'irais pas jusqu'à dire que c'était des débiles mentaux. Je dirais qu'il y a une misère sociale qui s'aggrave. Et lorsqu'on veut s'en sortir, ben,
non, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire.
C'est forcément de la mode méthode. Mais je dis, c'est qu'il y a une colère sociale. Il y a un moment, ça prend différentes formes. Et malheureusement,
Alors, messieurs, justement, pour rester sur la retraite, sur la réforme des retraites, est-ce qu'il y aura finalement, quand je vous écoute parler, des compromis? Maître David Libeskind.
Après, Emmanuel Macron, c'est pas le genre d'homme politique à faire des compromis. Là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la donne a changé. Il n'a pas de majorité, donc il n'a qu'une majorité relative. Donc, il est possible qu'il fasse des compromis, mais après, il faut voir quel compromis.
Il n'y a pas de compromis.
Mais je pense
pas. Quand le travail est exploité par le capital.
Non, mais je parle des compromis.
Il faut qu'il fasse du fric, surtout dans un contexte géopolitique mondial.
Non, mais ça, on est d'accord.
Des oligarques français d'augmenter le taux de profit de la nation parce que dans la nouvelle configuration mondiale avec un continent asiatique qui se développe à max, ils n'ont pas d'autre choix que faire du fric. Il n'y aura pas de compromis.
Alors,
il y aura aggravation du travail par le capital, point barre.
Laisse-moi finir mon idée, s'il te plaît. Non, je pense qu'il est possible qu'il va y avoir un dialogue, mais un faux dialogue, un dialogue artificiel. Mais avec les groupes politiques, avec LR, alors bon, la France Insoumise et le RN, j'en parle pas trop. Emmanuel Macron, s'il veut faire passer sa réforme, il sera obligé de faire des compromis, au moins avec LR, qui a priori.
Excuse-moi, mais il peut passer en première lecture sans problème. Il a la majorité relative.
Non, parce que.
Non. Si.
Non.
Elle n'est pas absolue, mais elle peut passer.
Non,
elle
franchement,
ne passerait
non,
pas
elle
si
passera
tous
pas.
Tous les groupes d'opposition se liguaient contre lui.
Mais c'est ce que je dis, en fait. Il a une majorité relative, mais il n'a pas la majorité absolue. C'est-à-dire que si tous les groupes, en fait, LR compris, votent contre la réforme qui est proposée à l'Assemblée nationale, la réforme ne passe pas.
On est d'accord.
Je te rappelle qu'au Sénat, Emmanuel Macron n'a pas la majorité. C'est la droite qui est majoritaire. Donc il suffit que la droite ne donne pas son quitus, parce que je ne pense pas que le RN et NUPS et la NUPES, évidemment, votera cette réforme. S'il n'a pas la droite avec lui, il ne pourra jamais faire passer sa réforme.
On est d'accord.
Donc il est obligé, en fait, d'arriver à un compromis avec la droite.
Indépendamment de ce jeu politico-politicien parlementariste, il y a une réalité que tu parlais JP des Gilets jaunes. Mmh. Il y a eu les Gilets jaunes qui ont avancé des revendications qui étaient le RIC, par exemple, le référendum. Mmh. Bon, ce qu'il faudrait faire. Et ce qu'il faut faire, si on était vraiment dans une démocratie, blablabla, blablabla, moi j'y ai jamais cru, il faudrait une telle réforme. La retraite à point, c'est fondamental pour la plupart des Français. Ne serait-ce que pour ça, pourquoi il n'y a pas eu de référendum?
Il ne le fera pas.
Pourquoi?
Il ne le ferait pas parce qu'il va le perdre.
Tous les partis politiques et membres du gouvernement seraient déjà qui ne sont pas légitimes, de par les rangs de fonctionnement des dernières élections, mais de plus, ils seraient doublement illégitimes. Donc ils ne le feront jamais. Donc il faudrait mettre en exergue, que ce soit pour la retraite à point ou autre, un véritable processus de référendum dans lequel tout le monde exprime son opinion. On peut le faire.
Alors, tu sais quoi, c'est facile.
Et dans lequel le
Jean-Pierre Colombiès. Jean-Pierre Colombiès.
Je suis parfaitement, totalement d'accord avec l'idée qui vient de développer. Pas plus tard que demain, je demanderai sur le site de Facebook de l'UPNI que je représente que justement soit organisé un référendum sur ce sujet et qu'on arrête les petits arrangements justement entre groupes parlementaires. Illégitime, je suis bien d'accord.
Autre sujet, messieurs, nous sommes en train, il faut qu'on avance parce qu'il est 19h06, mine de rien. Le pouvoir d'achat. Alors ça y est, les mesures, vous les connaissez. La première ministre, Madame Elisabeth Borne, a décliné évidemment du chèque énergie en passant par, le fuel. Bref, tout a été abordé auprès de ces fameux 12 millions des plus démunis de Français. Alors, messieurs, est-ce que cela suffit? Est-ce que finalement, d'abord, comment vous réagissez? Et est-ce que ça suffit pour le Français? Jean-Pierre Colombiès.
Non, ça ne suffira pas. Et puis, je commence à en avoir assez. J'espère pas être le seul à avoir cette opinion, que faire l'aumône gouvernementale au petit salaire ou au plus humble, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vue d'ensemble. Non, il y a véritablement un manque de perspective, justement, dans cette problématique du pouvoir d'achat. On sent bien qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre. La crise énergétique a bon dos aussi, d'une certaine manière, parce que tout augmente. Tout augmente, et des produits qui n'ont strictement rien à voir ni avec l'Ukraine, ni avec l'énergie. Donc il y a une spéculation massive qui est en train de se développer dans ce pays, ça pose un vrai problème. Et ce qui pose, et je vais évoquer un sujet que j'évoque rarement, que je l'ai rarement évoqué sur ce plateau, c'est l'immigration. Je mets en garde tous les partis politiques qui naïvement défendent une immigration de masse. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, oui, justement.
Eh ben je vais y répondre, tout simplement.
Mais restons sur le pouvoir d'achat. Hein.
Oui, mais ça,
mais c'est un lien.
C'est lié. Pourquoi ? Parce que l'appel, je pense notamment aux restaurateurs qui font appel à une main-d'œuvre nord-africaine, notamment, pour nourrir les institutions en restauration, permettent à ces entrepreneurs de ne pas augmenter les salaires. Et c'est là où c'est un piège. Je rappelle quand même que Georges Marchais, qui n'était pas spécialement un homme porte-drapeau de la droite radicale, déjà alerté l'opinion publique et ses adhérents, disant attention, avec une immigration de masse, vous bloquez vous-même, vous vous tirez une balle dans le pied. Il parlait à l'opinion publique générale, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que de fait, en faisant venir des gens qui vont accepter de travailler pour des salaires de misère, vous empêchez la revalorisation des salaires de manière globale. C'est un vrai danger. C'est pour ça que Macron tient un discours notamment en accord avec...
Alors, je parlais plutôt d'exploitation d'un de travail.
Alors, attendez. Oui, mais attendez. Je distribue. Maître David Lemesquite, vous dites quoi sur le pouvoir d'achat? Qu'est-ce que vous dites, évidemment? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte?
Alors, je ne vois pas trop le rapport entre l'immigration et le pouvoir d'achat. Je dirais deux mots à la fin. Mais de toute façon, je l'avais déjà dit sur votre
tout,
antenne.
Hein, c'est un élément, hein.
Votre antenne, ce sont des mesurettes, en fait, qui sont préconisées. Alors peut-être il y a un élément positif, même si c'est une mesurette encore, c'est le bouclier tarifaire concernant l'électricité et le gaz qui va être reconduit sur l'année 2023. A priori, d'après des sources gouvernementales, la facture d'électricité aura augmenté que de 4%. Et il compte limiter cette hausse à 15% en 2023. Mais le reste des mesures, je rappelle, la prime Macron, mais la prime Macron, elle est facultative. Donc les TPE, les PME ne vont pas l'appliquer. Ça va être peut-être les très grandes entreprises, les multinationales. La RTT, que l'employeur, que le salarié pourra racheter à l'employeur, bon, ça reste aussi une mesurette. Alors je ne parle pas du chèque de 100 à 200 euros pour l'aide au fuel. Mais c'est encore des mesurettes. Je veux dire,
c'est du bricolage.
C'est du bricolage, c'est de la communication politique. Elles vont être appliquées, évidemment. Enfin, je l'espère, en tout cas. Mais en tout cas, ça reste.
Quand vous dites ces mesurettes, je veux comprendre. Politique. Vous savez qu'on a affaire quand même à 12 millions de Français qui sont les plus démunis.
Oui.
C'est d'abord eux qui sont prioritaires.
Oui.
Ça ne peut pas être des mesurettes. Vous vous rendez compte, j'ai vu, moi, quelques témoignages d'une femme avec ses enfants, deux enfants notamment, qui disait mais bon, c'est pas beaucoup, mais ça m'aide. Ça m'aide à me soutenir, à me permettre d'acheter quand même quelques affaires, quelques vêtements, quelques éléments en plus pour mes enfants. Donc,
L'inflation, elle est à combien? Elle doit être à 7%.
Ouais, c'est ça.
On va être bientôt à 8%. La facture d'électricité, elle a augmenté de 4%. Donc, ça veut dire en fait que la personne qui paye sa facture d'électricité a perdu 4% de pouvoir d'achat. Ça ne peut être que des mesurettes par rapport à la situation économique du pays, par rapport à l'inflation galopante. Je veux dire, ça augmente pas le pouvoir d'achat. Au contraire, c'est des mesurettes parce que ça le réduit.
Jimmy Dalidou.
Moi, je dirais pas mesurettes, je dirais tout simplement que ce sont des rustines sociales. Pourquoi ce sont rien de plus que des rustines sociales?
J'ai tout entendu cette semaine, moi. On m'a parlé de pansement. On m'a parlé de rustines. Lui, il parle de rustines. J'ai entendu, c'était quoi? Un patch.
Évidemment, quand l'argent tombe, ça fait toujours du bien. Le problème, c'est que ces rustines sociales reflètent un problème bien plus profond. Le problème qui se pose actuellement, c'est qu'il y a clairement en France une insuffisance de production. D'accord ? Il y a une insuffisance de production.
Sans le sait.
Le mode de production irrationnel, anarchique, incapable de satisfaire les besoins de la population, c'est une réalité qu'on est en train de vivre. Et le problème qui se pose, c'est que corrélativement à cette insuffisance de la production, la masse de monnaie circulante est considérable. Parce qu'il y a toujours du fric. Les oligarques n'ont jamais été autant riches, autant friqués. Le problème qui se pose, c'est que la masse de monnaie circulante, elle est là pour aussi, entre autres, réaliser le prix des marchandises. Le problème qui se pose, c'est que vu que dans le même temps, vous ne produisez pas et que dans le même temps, vous augmentez la monnaie de la nation parce que, parce que les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres, et bien forcément, comme il n'y a pas assez de marchandises, comme on ne produit pas assez, la somme totale de la monnaie qui doit se réaliser en prix, il y a une incohérence à ce niveau-là. Ce qui fait qu'en fait, l'inflation, elle est liée au fait qu'en ce moment, vous avez des riches qui s'enrichissent toujours plus, alors que les pauvres s'appauvrissent. Et ça, ça va s'aggraver. Parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit à la CGT, en tout cas le courant révolutionnaire de la CGT, c'est qu'il faut arrêter avec cette illusion de croire que dans le mode de production capitaliste, on pourrait revenir à une égalité sociale et des conditions d'existence saines. Non, les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui s'appauvrissent, font partie des rouages du fonctionnement du capital. Donc ce qu'il faut, la solution, c'est quoi ? C'est il faut socialiser les moyens de production, c'est-à-dire qu'il faut nationaliser. Et si vous socialisez les moyens de production, vous produisez, vous répartissez convenablement les marchandises et vous pouvez même créer des fonds d'assurance sociaux dans lesquels vous avez des fonds d'assurance sociaux qui se chargeront de couvrir les besoins en alimentation, les besoins en écologie, les besoins en énergie,
s'il
y a des problèmes sanitaires.
Je vais juste lancer la pub, si vous me le permettez, et on revient en parler. Pub, et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès, les informés avec Maître David Libeskind et enfin avec Jimmy Dalidou. Messieurs, un tour de table encore sur le pouvoir d'achat. À quoi peut-on s'attendre? Évidemment, vous l'avez annoncé, Maître David Libeskind. Effectivement, c'est quoi? C'est les fameux manifestations à venir. Ouais, donc, oui. Jimmy Dalidou, un tour de table, évidemment, le pouvoir d'achat et les Français.
Alors, je pense que ce sont des.
Le bouclier, on peut en parler aussi.
C'est Rustine Sociale et un gouvernement qui est incapable.
Il y a quand même des aides qui ont été déployées. Certes, pas suffisantes, mais il y a des aides qui sont déployées.
On parle de classe d'oligarques. Moi, j'appelle tous mes concitoyens d'abord à descendre dans la rue le 29 septembre prochain. Ce qu'on a, la CGT appelle au rassemblement national, à une manif nationale le 29. Mais il ne faut pas que ce rassemblement se suffit à lui-même.
Le
29 septembre. Tout le monde dans la rue.
Et Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé aussi le 14
octobre. On tape dedans, on reprend la rue et on impose nos revendications et on reprend notre avenir en main et on démontre que ce n'est pas le gouvernement qui doit nous dicter ce qu'on doit faire, c'est nous qui devons dicter notre propre vie, reprendre en main notre propre vie. Bougeons-nous un peu le cul, excusez-moi de parler franchement, mais qu'on se lève un peu du canapé, qu'on arrête de regarder la télé et des trucs qui nous ramollissent les neurones, on sort dans la rue et on impose notre volonté et nos revendications. Et déjà, ça ira mieux.
Maître David Libeskind.
On va voir le 29 septembre. Est-ce que ça va être une manifestation massive? Franchement, je ne sais pas, mais on connaît quand même Emmanuel Macron. Il faut combien de gens dans la rue? Il faut peut-être 3-4 millions pour qu'ils puissent un petit peu réfléchir, en tout cas. Écoutez, on verra. Moi, je suis assez prudent.
Sceptique.
Je suis sceptique sur...
je vois ça.
En fait, la technique de manifestation ne porte plus depuis longtemps. Enfin, on a pu le voir pendant la crise des Gilets jaunes. Parce qu'il y a une répression policière qui est quand même incroyable. Mais je pense qu'il faut la compléter par d'autres formes de lutte. Bien sûr, il faut aller en manifestation, évidemment. Je ne dirais pas qu'il faut y aller. Mais il faut trouver d'autres moyens de lutte.
Les médias parlent de radicalisation et ne parlent pas de conscientisation.
Faut compléter. Excuse-moi, deux secondes, laisse-moi parler.
Non, mais tu dis que
ça sert à rien. Sois pas staliniste. Ça
sert à rien.
J'ai pas dit.
Une manifestation ne sert à rien.
Non, mais bon, laisse parler un peu. C'est pas ce que j'ai dit.
Emmanuel Macron doit bouger quand il a en face de lui 3 à 4 millions de manifestants.
Mais je pense que il y a également des.
Peut bouger. C'est ce qu'il a dit. Il peut bouger. En gros. ce que je dis de David, voilà. Pardon, mais je ne suis pas son avocat, avocat lui-même, donc il n'a pas besoin d'avocat. Il est en train de nous dire qu'en gros, Macron peut bouger s'il est en face de lui,
oui,
la masse.
Oui, oui. Voilà. Faut qu'il y ait la masse.
La masse en mouvement obligera voilà,
mais
faut
d'autres actions,
à la volonté d'agir.
Voilà, faut d'autres actions complémentaires, des blocages, des usines, par exemple, etc. La manifestation à elle seule ne suffit pas. Ouais. Faut d'autres moyens de lutte.
Jean-Pierre Colombiès.
Ouais, moi, ça m'amuse beaucoup, votre conversation, parce que, oui, effectivement, il y avait un moyen, effectivement, de ne pas en arriver là et déjà de provoquer un choc démocratique, c'était aussi peut-être de ne pas voter pour lui. Et quand on a 50% d'abstention dans un pays comme la France, bah, ça pose question. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jimmy, quand tu dis que le système de votation est biaisé dans ce pays. Il l'est clairement. La démocratie, le système, les mécanismes de la démocratie sont très altérés en France. On ne peut pas le nier.
Ce sont carrément désagrégés, Julien.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. On en a discuté suffisamment. Mais la catharsis de cette désagrégation, c'est l'élection d'Emmanuel Macron, qui est quand même élu au premier tour avec moins de 15% des inscrits. Mais après, après que les électeurs se regardent un peu dans la glace, alors peut-être ils vont aller en masse le 29 septembre dans la rue, c'est tout à fait possible, c'est même souhaitable, mais quand il y a des échéances électorales, on évite d'aller à la pêche, c'est tout.
19h25. Bon, il nous reste 5 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de la Russie. Très important.
Ouais.
Les relations, est-ce qu'ils sont au beau fixe entre Vladimir Poutine et Xi Jinping? En fait, l'enjeu, il se place où maintenant? C'est quoi? C'est une espèce de pression à eux deux pour le reste du monde en direction des Occidentaux, Jean-Pierre Colombiès?
Alors, je crois que pour ceux qui suivent pas vraiment, qui sont pas vraiment intéressés par l'actualité internationale, j'ai envie de te dire que ça fait un moment que tout se passe à l'Est. Parce qu'on a quand même plusieurs puissances émergentes à l'Est. C'est pas que la Chine, c'est aussi l'Inde. Qui est un pouvoir colossal de pression et qui a envie d'exister. Découvrir aujourd'hui qu'il peut y avoir un pôle à l'Est entre la Chine, l'Union soviétique, la Russie, l'Inde, il ne faut pas oublier non plus les autres pays, je veux dire les autres puissances émergentes, l'Indonésie notamment, et pas que, il faut être d'une naïveté incroyable et il faut être un Européen béat pour s'imaginer que l'Europe pèse encore. Donc il y a effectivement un axe Est, et d'ailleurs les Américains l'ont bien compris, puisqu'ils ont largement laissé tomber l'Europe, et qui vont laisser se dépatouiller l'Europe avec l'Ukraine, notamment. Parce qu'il y aura d'autres sources de pression en Europe. Il y en a une qui va un jour exploser, qui va nous exploser à la figure. C'est la Serbie et la Croatie. Je rappelle qu'il y a un couloir complètement aberrant sur le couloir croate. Tout le monde s'en fout aujourd'hui, mais je vous le prédis aujourd'hui, un jour, ça explosera. Voilà, ça c'est pour dire qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'à l'Est se crée un autre bloc de puissance, et les Américains sont déjà tournés vers ce
Mais la rencontre, Poutine...
La rencontre, c'est un arrangement entre dictateurs, il n'y a pas de souci. C'est pas de l'amitié, c'est un échange de bons procédés, un échange d'intérêts.
Maître David Libeskind.
Ouais, alors rapidement, moi je trouve que les médias qui ont traité la rencontre médiatiquement, on a l'air un petit peu optimiste en disant oui, de toute façon, la Chine, la Russie, la Chine se méfie de la Russie. Cette rencontre est un échec pour Vladimir Poutine, puisqu'il n'a rien obtenu. Hein, c'est ce que disent les éditorialistes et les spécialistes sur les plateaux télé. Alors, effectivement, la Chine, elle est un petit peu embêtée, parce que la Chine veut la paix, elle a toujours été pacifique, elle aime la stabilité. Puis elle veut pas de sanctions, parce que dès lors que la Chine s'allie de manière officielle avec la Russie, il y aura des sanctions occidentales et la Chine n'en veut pas. Si, je le rappelle, parce que l'économie chinoise va très mal en ce moment. Elle va très mal. Et donc c'est pas c'est une alliance souvent du passé, parce que je rappelle que comme la Russie est anciennement communiste et que la Chine est communiste, donc c'est une alliance qui existe depuis longtemps quand même. Il y a toujours eu cet axe russo-chinois. Mais après, est-ce que la Chine n'a pas soutenu de manière officielle la Russie pour la guerre en Ukraine, ça je le rappelle. Puis la Chine, de toute façon, c'est un pays, c'est une puissance individualiste, donc la Chine fera ce qu'elle veut.
D'une manière générale,
et enfin Jimmy Dalidou,
c'est clair que le monde unipolaire qui était dominé jusqu'à présent par l'impérialisme nord-américain après les accords de Bretton Woods, etc., ça c'est fini, terminé. Pardon. C'est un monde multipolaire qui se dessine avec un continent asiatique qui se développe, se rapproche. Cette discussion Xi Jinping et Vladimir Poutine est une rencontre entre deux pays qui ont compris qu'ils étaient des puissances émergentes de ce monde et qui sont des éléments clés. Les accords sino-russes sont la force motrice du continent asiatique. Il y a trois pays qui vont donner la note pour l'avenir. L'Iran, parce qu'il est observateur,
j'allais en parler,
et que c'est un lien organique entre le reste du monde et l'OCS. Le deuxième pays, c'est la Turquie, membre de l'OTAN, mais qui n'est pas fermé à l'organisation de la coopération de Shanghai. Et le troisième pays, c'est l'Arabie Saoudite, qui n'a pas augmenté son exportation de pétrole aux États-Unis et ailleurs, et qui est dans une neutralité bienveillante et qui n'est pas hostile à l'organisation de la coopération de Shanghai.
Merci, messieurs.
Il a tout dit.
Oui, il a tout dit. Ouais, c'est bien, bravo. Merci Jimmy Delido, à bientôt. Merci Maître David Libiski, à bientôt.
T'en prie.
Merci Jean-Pierre Colombès, à bientôt. À la réalisation, c'était Giovanni. Merci à tous celles et ceux qui ont participé au standard au 01 53 48 3000. Vous avez été très nombreux. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien et on va se retrouver sur d'autres ondes. Bref, l'antenne.
Sur les ondes du travail.
Les ondes du travail, exactement, absolument. Télévisuel. Portez-vous bien, surtout, chers amis. Bilal Lehmann, 21-22.
Ah, il n'est pas là, j'ai
20-21, pardon. Je crois qu'il est là.
Il n'est pas là.
On le salue. Ensuite, les programmes continuent sur BFM. Quant à moi, je vous dis à lundi, avec autant de plaisir. Mais surtout,
On ne lâche rien.
Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.